l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des territoires du monde et de la solidarité internationale.
Eh bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et je dirais le grand honneur de recevoir une dame, j'allais dire grande, mais je sais que peut-être elle ne va pas accepter que je dise ça, qui est très connue sur les ondes, qui est très connue dans la militance par rapport au territoire du monde, donc, et dans la solidarité internationale. Et donc, on a pas mal de sujets, j'espère que ça on a beaucoup de sujets à aborder ensemble, parce que vous allez évidemment, vous allez le comprendre, on va parler effectivement de la Palestine, donc ça ne va pas vous surprendre aussi par rapport à l'actualité brûlante actuelle. Mais je vais lui demander de se présenter un petit peu et de présenter un peu ses casquettes, parce que c'est important de savoir qui on a en face de soi ou à l'autre bout du micro. Bonjour Monique. Alors,
bonjour, comment me présenter? Alors moi, la Palestine, c'est quelque chose que j'ai depuis l'enfance en moi, puisque mon père a été assassiné à Jérusalem l'année de ma naissance par un groupe d'extrémistes juifs, le groupe Stern, qui dépendait du Lehi, et que donc cette histoire m'a collé à mon enfance et je ne peux pas ne pas en tenir compte. Et ce recueil vient justement du fait que l'année dernière, il y a un lieutenant-colonel de l'aviation qui m'a dit qu'il avait obtenu que mon père ait enfin la mention « mort pour la France ». Mmh. Et j'ai reçu les documents au mois de mai 2023. À ce moment-là, avec l'association France-Palestine Solidarité, on avait consacré une journée à la Nakba. Donc ça faisait 75 ans que 75 ou 76 000 Palestiniens avaient été chassés de leur maison par Israël qui venait d'être créé. Mmh. Et ces deux faits ont eu pour moi un impact et je me suis dit pourquoi ne pas réaliser un recueil avec des gens qui sont sensibles à ce qui se passe au Proche-Orient. J'avais déjà auparavant fait deux recueils. Le premier toujours avec Chèvrefeuille étoilée au cœur de l'errance. Le second en collaboration avec Agnès de France de SOS Méditerranée. Mmh. Donc c'était la même chose. Les deux étaient faits pour SOS Méditerranée et dans le but de faire connaître l'histoire des gens qui traversent au risque de leur vie la mer. Et puis aussi les bénéfices allaient au bateau. Mmh. Donc j'ai commencé, ça a été assez facile puisque j'avais un certain nombre d'auteurs que je connaissais et qui m'ont répondu avec leur accord, sauf que il y a eu le 7 octobre et que là ça a été très compliqué. Certains des auteurs n'ont plus réussi à écrire parce qu'ils étaient soit dans la colère, soit dans la sidération. Et donc ça a beaucoup traîné. Il y a des auteurs qui ont mis des mois avant de réussir à écrire quelque chose, d'autant que les événements changeants et empirants, un texte qu'on pouvait avoir écrit au mois de mai ne pouvait plus correspondre au mois d'octobre, ni même au mois de décembre, parce que les choses bougeaient. Et finalement, on a quand même réussi à avoir 40 personnes qui ont écrit et 10 qui ont illustré ce recueil.
D'accord, donc ça a été quand même, c'est une très belle initiative et motivée par une histoire émouvante. J'avoue que c'est toujours très émouvant d'entendre parler de ça, hein, d'un homme assassiné parce qu'il militait pour la paix, et qui laisse des orphelins, une orpheline en tout cas. Et il y a une citation qui me vient, parce qu'on va sûrement en reparler, mais qui me vient tout de suite parce que c'est une citation que j'ai tout le temps dans mes références. Elle résonne en moi, c'est de Mahmoud Darwish, qui est le poète, qui est un type extraordinaire. Mmh. Voilà, j'invite les auditeurs à vite se précipiter. Il a fait énormément d'ouvrages qui sont vraiment, on n'est pas obligé de tout lire, mais quand même. Et donc, c'est une citation que j'ai toujours, qui s'est gravée dans mon cœur, qui dit « Et la terre se transmet comme la langue ». C'est-à-dire que dans le récit de Monique, là, ce que j'entends, c'est qu'en même temps, à la fois cette terre de souffrance et en même temps de résilience et de conquête, etc., elle a souhaité la faire mettre en mots, en langue dans un ouvrage et qu'en même temps, elle nous explique bien qu'à travers les émotions, donc on va recevoir tout ça quand on va lire ce livre. C'est-à-dire que, quelque part, on va recevoir aussi ce que tu nous as expliqué, c'est-à-dire cette souffrance des gens, le problème, ce qu'ils ont eu à franchir par moment au niveau émotionnel pour arriver à mettre des mots. Donc, quelque part, et pour arriver à transmettre cette terre aussi. Voilà.
Alors, je tiens aussi à préciser que, d'un autre côté, ma mère, qui était résistante, a été déportée pendant 2 ans. Donc, elle n'était pas juive, mais elle a subi le sort des juifs. Et toute mon enfance, elle m'a parlé de la déportation et des tortures, etc. Donc, dès que mes filles ont été en âge de comprendre, je leur ai lu des livres sur la Shoah, je leur ai fait comprendre la souffrance des juifs. Donc, moi, je me sens tout à fait légitime pour faire ce genre d'ouvrage, parce que je ne peux en aucun cas être antisémite, et que d'un autre côté, je suis non pas pro-palestinienne, je suis pro-justice pour les Palestiniens. Donc j'ai voulu que ce livre soit ouvert à tout le monde et à toutes les différences, mais qui allaient toutes dans le sens de la paix et de l'union.
Et il est vrai que dans les déportés, malheureusement, il n'y a pas eu que des juifs, ça a été très malheureux. Il y a eu, bon, on disait les tziganes, les homosexuels, les gitans,
les communistes,
les résistants,
les témoins de Jéhovah aussi.
Voilà, les résistants, etc.
Oui, oui.
Et moi, j'ai une amie.
Et les opposants au régime.
J'ai une amie d'origine polonaise qui me dit. Il s'était réfugié en France après. Toute sa famille a été exterminée dans les camps de concentration et ils n'étaient pas du tout juifs.
Donc,
pour dire que ça a touché quand même une énorme partie de la population et effectivement, après cette stigmatisation d'une religion qui est inadmissible de toute façon.
Tout à fait.
Voilà. Donc, j'avoue que je suis assez admirative de cette idée, moi qui aime les mots et qui aime les mots aussi écrits. Et je trouve que c'est une très, très belle initiative qui vraiment va nous rapprocher du cœur du sujet. D'autant qu'actuellement, on en dit deux mots quand même, Monique, actuellement, avec tout ce qui se passe, quoi. C'est quand même assez, assez terrible, les événements actuels.
Alors, c'est très compliqué parce que, effectivement, quand il y a eu ce drame, cette horreur du 7 octobre, ça a vraiment eu un impact énorme sur le monde entier. C'est terrible, tous les morts qu'il y a eu suite à l'attentat du Hamas. Mais comme l'explique Dominique Vidal, qui est un spécialiste justement de l'histoire de cette partie du monde, c'est un peu comme si vous alliez au cinéma pour les 5 dernières minutes du film et qu'après vous racontiez aux gens le film. Et bien le 7 octobre, c'est ça. Les problèmes qu'il y a en Palestine n'ont pas commencé le 7 octobre.
Bien sûr.
On peut remonter à 75 ans, donc la Nakba dont j'ai parlé tout à l'heure, mais bien avant encore. On peut remonter au moment où Theodor Herzl, à Bâle, en 1875, je crois, ou 95, je ne me souviens plus trop, a voulu créer le sionisme qui était de tendance marxiste à l'époque, parce qu'il avait été très choqué de l'affaire Dreyfus. On peut remonter à 1916 avec les accords Sykes-Picot entre la France et l'Angleterre qui se partageaient cette partie du monde, ou en 1917 avec la déclaration Balfour ayant demandé à Rothschild une aide financière pour la guerre qui était en cours et qui en échange voulait reconnaître les Juifs comme un peuple qui avait le droit à une terre. Donc tout est parti un peu de ces dates et non pas du 7 octobre 2023.
Oui, c'est sûr. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est important qu'on l'évoque avant de reparler plus précisément de cet ouvrage. C'est que quand même, ça fait très longtemps. Et justement, il y a quand même quelque chose qui m'a toujours choqué. C'est quand à la fois la Palestine est reconnue comme un pays, comme un État. Et en même temps, il y a des freins sans arrêt à vraiment cette proclamation vraiment officielle. Il y a toujours notamment Israël qui s'oppose un petit peu à ce que ça aille peut-être jusqu'au bout de la reconnaissance.
La Palestine est reconnue dans les têtes, mais pas dans les faits.
Exactement. Et c'est ça qui est quand même choquant. Alors que ce serait notre pays, peut-être que ça bougerait, je ne sais pas. Enfin, c'est quelque chose qui m'a toujours choqué, moi, cette idée que justement, ça n'est pas, dans les faits réellement, dans l'idée, ça y est, dans la théorie, ça y est, mais dans la pratique, ça n'est toujours pas là. Et c'est quand quand même très, 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 très grave et très inquiétant. Quoi.
Et il ne faut pas nier l'existence d'Israël. Ça a été reconnu officiellement.
Tout à fait,
Israël a le droit d'exister. C'est
tout
pas
à
la
fait.
Question.
Et ça a été une très bonne chose aussi. Voilà.
Tout à fait.
Donc,
Mais il faut regarder la carte de 1948 et celle d'aujourd'hui pour comprendre que déjà la solution à deux États qui serait l'idéal devient quasi impossible à cause de tous les checkpoints, de tous les murs qui séparent les Palestiniens entre eux. Et c'est vrai que cette carte suffit, c'est pas la peine de lire beaucoup de livres sur Israël-Palestine, il suffit de regarder ces cartes et de voir à quel point le territoire palestinien est devenu une peau de chagrin, où les gens sont séparés, les familles sont séparées. Bon, déjà, les personnes qui sont à Gaza depuis 16 ou 17 ans n'ont pas revu leur famille la plupart du temps, qui est en Cisjordanie. D'ailleurs, il faut savoir que le problème dont on parle le plus en ce moment, c'est effectivement Gaza, puisque ce qui s'y passe est horrible.
Tout à fait.
Mais il y a aussi des répercussions en Cisjordanie. Il y a eu des crimes et des arrestations énormes en Cisjordanie depuis ce 7 octobre.
Et à Bethléem même, enfin je sais parce que moi j'y suis allée, c'est vrai que le quartier, le quartier musulman est un quartier qui est souvent en grande souffrance, négligé ou maltraité aussi.
Oui, oui, oui.
Maltraité, puisqu'il y a quand même normalement c'est les trois grandes religions, donc il y a des quartiers de chaque religion. C'est ce que j'ai pu comprendre et ce qu'on m'a rapporté là-bas et ce que j'ai ressenti, c'est que quand même ces quartiers-là, ils sont, parce que justement ils sont palestiniens bien sûr, avec par les habitants, quoi.
Alors, il y a aussi, puisque tu parles de Bethléem, c'est intéressant, parce que moi, j'y suis allée, effectivement, je suis allée en mission il y a une dizaine d'années, et on a tendance à nous dire que les musulmans et les chrétiens ne s'entendent pas. À Bethléem, ils s'entendent énormément, parce que ça aussi, quand on... Le conflit qui se passe là-bas, ça n'est pas un conflit ethnique, ça n'est pas un conflit religieux. C'est une histoire de colonisation. Or, si on met les musulmans contre les juifs, on efface les Palestiniens chrétiens, druzes ou autres. Enfin, je veux dire qu'il n'y a pas que des musulmans parmi les Palestiniens. Donc, il faut vraiment se mettre ça dans la tête, que ce n'est pas une histoire de racisme, ça n'est pas une histoire de religions qui s'opposent, mais c'est bien ça, une histoire de territoire qu'on veut conquérir, et on le conquiert avec, sans aucune limite.
Voilà, et en poursuivant, donc, moi j'avais choisi ensuite, j'avais fait une option pour Bethléem, et c'est vrai que, bon, d'abord, le passage de frontière, je ne raconte même pas, hein, avec les mitraillettes, avec tout, enfin, c'est horrible. Hein. La guide qui change, parce qu'elle est, elle est israélienne, elle était super, d'ailleurs, elle avait été élevée à l'école française à Istanbul, donc c'était quelqu'un, et qui change et qui donne la place à un Palestinien. Comment on a été accueilli, d'ailleurs, en Palestine? Comment cette église et comment la fameuse grotte, enfin, comment tout ça est conservé, justement? Et en même temps, quand on ressort, cette rudesse, combien c'est dur quand on revient et quand à nouveau on doit franchir une frontière, mais avec des surveillances incroyables. Enfin, c'est vrai que c'est très, très, très choquant et que cette année, avec les événements, j'ai pensé justement, moi qui en plus je suis pas religieuse du tout, mais j'ai pensé vraiment justement à Bethléem. Parce que là, les gens, ils ont été enfermés complètement.
Oui, tout à fait aussi.
Complètement. Alors, il y avait la cérémonie, évidemment, de Noël et tout ça. Mais en même temps, j'ai vraiment pensé à cette partie où vraiment on a trouvé des gens adorables qui essayaient de s'en sortir, mais dans des situations... Enfin, c'était très choquant, en tout cas.
Moi, je sais que quand j'y suis allée, j'ai jamais entendu un mot contre les Juifs de la part des Palestiniens qu'on a rencontrés. Eux, c'est le sionisme et le colonialisme qui les dérange, mais ils ont des amis juifs et ils n'ont aucune... Enfin, les Palestiniens que j'ai rencontrés. Et j'ai trouvé qu'ils étaient assez peu haineux.
Tout à fait. Bon, Monique, là, on est toutes les deux un peu brassées par ce qu'on évoque. Donc, je propose une pause musicale. Je ne sais pas, c'est toi qui as choisi.
C'est Rimbana, une chanteuse palestinienne. Donc, la chanson s'appelle Sarah. C'est une chanteuse qui, malheureusement, est décédée maintenant, mais qui a une voix fabuleuse.
Merci. À tout à l'heure.
خطواتها على تراب فلسطين، وكانت ضحكتها تغطي سماء فلسطين. كانت ساراي تدرج أولى خطواتها على تراب فلسطين، وكانت ضحكتها تغطي سماء فلسطين. غافلها القناص بطلقة في الراس، في رأس سارة الصغير. غافلها القناص بطلقة في الراس، في رأس سارة الصغير. سارة، 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 سارة.
Eh bien, nous étions transportés dans la magie de cette voix, vraiment qui a vraiment un ton qui nous emporte, et dans la gravité aussi d'ailleurs, dans l'enchantement de la gravité. Et je suis de retour sur les ondes avec Monique Serrault-Chaibi, qui est venue pour parler d'un livre qui est édité par la maison d'édition Chèvrefeuille Étoilée. Je pense que beaucoup de gens connaissent cette maison d'édition qui est quand même... qui existe en France, enfin à Montpellier depuis longtemps dans la région.
Depuis
2000, oui, c'est ça. Ça me semble bien que ça faisait un moment que je les connaissais. Et donc, Monique, on va revenir un peu plus spécifiquement. On s'était laissé un petit peu aller, enfin pas aller, on était allé un peu dans la profondeur de tout ce qui se passe et qui fait la difficulté de la Palestine à exister, et qui fait quand même ces conflits qui sont récurrents et qui nous bouleversent. Et donc, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus spécifiquement de cet ouvrage dont tu as parlé au début, mais voilà,
tout
en disant, alors je dis quand même le titre, « Paroles pour une paix en terre de Palestine ». Donc c'est un programme quand même.
Voilà. Et avec des mots qui commencent par « paix ».
Par « paix ».
Comme
oui.
La paix.
Paix, voilà. Paix, paix, voilà.
Ben, je vais revenir quelques secondes sur la maison d'édition Chèvrefeuille Étoilée, qui s'était
oui,
déjà bien
sûr.
Démenée pour le premier recueil
Tout à fait.
Au cœur de l'errance. Mm. Et là, j'avoue que Marie-Noëlle Arras et Anouk Trévisan ont donné énormément de leur personne pour que ce livre puisse exister, et je leur en suis très reconnaissante. J'ai choisi, donc dans ce recueil, je voulais, alors comme je fais partie d'une autre association qui s'appelle Coup de Soleil,
oui.
Et qui essaye de mettre des ponts entre les deux rives de la Méditerranée à travers la littérature, le cinéma, etc. du Maghreb, je connais beaucoup d'écrivains qui sont originaires du Maghreb. Mmh. Mais je voulais avoir aussi des écrivains ou des personnes d'origine juive. Non pas parce qu'ils sont juifs, mais pour montrer que le fait d'appartenir à une caste, on va dire, ne vous oblige pas à défendre cette caste malgré tout. Et d'ailleurs, quand j'ai contacté Hubert Haddad, qui est un écrivain que j'admire énormément, ça l'a gêné quand je lui ai dit que je voulais des voix juives. Il dit, mais moi, je veux pas... Je suis juif, bon, c'est une réalité, mais c'est pas moi, tout en général. Et donc, je vais lire un petit extrait d'une interview qu'il a eue après avoir édité le livre Palestine. Dans Palestine, il raconte l'histoire d'un soldat de Tsahal qui est blessé lors d'une intifada et qui sort de ses blessures amnésiques et qui est reconnu par une famille palestinienne comme le fils qui a disparu. Donc, il passe d'un camp et d'idées à un autre camp. Et j'ai trouvé ce livre très, très intéressant. Donc là, quand on l'a interviewé, on lui a demandé pourquoi le personnage devait-il être amnésique. Donc je vais donner sa réponse. « Palestine peut être lue comme une mise à l'épreuve de la situation existentielle, une sorte d'épochée, de mise entre parenthèses, de tous les a priori et du poids des savoirs. Un peu comme son... Pardon. Un peu comme en phénoménologie, pardon, afin de penser les faits comme ils surgissent. L'amnésie, en ce sens, est une table rase, l'oubli de tout ce qui entrave le simple jugement. Cham, devenu Nessim, voit et constate des actes et des situations dans l'innocence d'une proximité sans conjecture. Il pourrait dire « de la pensée me vient parce que je ne sais plus qui je suis ». Plus simplement, nous sommes tous en situation d'amnésie face au malheur. La tragédie est toujours nouvelle parce qu'elle mobilise toute notre affectivité. De retour du Rwanda, où au mois de juin dernier j'ai visité les terribles mémoriaux et approché les rescapés du génocide de 1994, je me suis souvenu bien sûr de la Shoah par balle qui eut lieu en Roumanie et en Ukraine entre 1941 et 1943. Mais sur place, à Kigali, il n'y avait pas de comparaison possible. Je naissais à l'insoutenable réalité qui m'était dévoilée. C'est encore plus simple, l'amnésie dans mon roman est une métaphore de l'empathie, du transfert. Je est un autre. Je ne suis que l'autre, le palestinien, le musulman tchétchène, du Caucase, le Tutsi, le juif ou le chrétien persécuté d'Iran. Voilà, je pense que ça résume assez l'intention que j'avais dans ce recueil. Et effectivement, il y a pas mal de personnes de même origine que Hubert Haddad, qui ont participé, comme Sophie Bessis, comme Sarah Cohen, etc.
Oui, il y a beaucoup de...
Et je suis très heureuse d'y avoir aussi, pas que des écrivains. Il y a Christophe Oberlin, qui est un chirurgien français, qui, depuis 2000, va 2-3 fois par an à Gaza opérer. Et surtout, les jeunes Gazaouis... ont souvent une mutilation au niveau du genou. On les vise avec des balles explosives, qui fait que quand une balle explosive atteint un membre, tout se déchire, les os sont en petits morceaux et tout. On ne peut pas réparer. Enfin, on ne peut pas, en tout cas, sauver la jambe. Et en même temps, il enseigne aussi la chirurgie, la microchirurgie, aux jeunes de médecins de Gaza. Il y a un ancien député d'Europe Écologie, Alain Lipietz, donc il y a des gens d'origines diverses, mais pas forcément, qui aiment l'écriture, mais qui ne sont pas forcément dans l'écriture. Bon, je ne peux pas tous les citer, il y en a 40.
Et puis, c'est impressionnant voilà. D'ailleurs.
Oui. Et puis il y a de très belles illustrations aussi.
Ouais, ouais, les illustrations sont très émouvantes aussi parce que, enfin, moi je trouve que elles traduisent très bien toutes les émotions qui sont transportées par les mots. Hein, et puis même, alors là évidemment c'est imprimé, donc mais quand même dans les couleurs et tout, je trouve qu'il y a à la fois il y a la douceur et en même temps dans le trait souvent, là j'étais sur une là, dans le trait souvent il y a cette espèce de violence qui peut être vécue. Vraiment, je ne sais pas comment tu as pu contacter tous ces artistes-là qui ont fait...
Alors,
les...
moi, j'en ai contacté la plupart, mais pas tous, hein, parce que mon chèvrefeuille, qui édite des auteurs, en a aussi.
Je les complimente aussi, alors, au passage.
Comme la dernière fois, il y a particulièrement Lamia Berka, qui me fournit des amis écrivains, ce qui fait que ça ajoute à ceux que je ou celles que j'ai moi-même contactées. Donc, non, je suis assez fière de ce résultat et qui n'aurait pas pu exister sans la volonté de tous ceux qui y ont participé et puis sans Chèvrefeuille qui a fait un travail remarquable.
Par exemple, j'ai celui-là, là, ce tableau de Louise Hopton qui s'appelle Aurore Boréale, Aurore, hein, Aurore, horreur. Et vraiment, c'est voilà, il y a même pas de, là, il y a presque pas de mots non plus, tellement c'est traduit et tellement ça retranscrit bien et ça transmet bien toutes ces émotions là. Il y a vraiment, c'est un livre vraiment que je recommanderais à de nombreuses personnes, quoi.
C'est une jeune artiste, hein, Louise Hopton, elle est née en 2004.
Ah oui, ben écoute, c'est vraiment vraiment il est magnifique. Enfin, il y a pas que celui-là, mais celui-là particulièrement, il a attiré mon attention. Il y en a beaucoup en noir et blanc aussi, parce que bon, on n'est pas forcément effectivement dans toute la couleur. Il y a vraiment, voilà. Et puis c'est bien de pouvoir avoir contacté tout ça. Et c'est bien aussi que à Montpellier, on ait une maison d'édition comme Chèvrefeuille étoilée qui permet quand même et qui en plus permet une très excellente qualité d'édition.
Et alors, nous présenterons ce recueil samedi prochain, le 4 mai.
Voilà, c'est ça.
Au Gazette Café. Ça sera une lecture musicale. Et il y aura donc, dans les lectrices et lecteurs, il y aura Marie-Noëlle Arras, donc de Chèvrefeuille étoilée. Soufiane Heut, qui est un jeune écrivain et dramaturge qui habite à La Paillade et que j'ai rencontré grâce à Nourdine Barra, dont la plupart d'entre vous peut-être
ont
vu les manifestations littéraires, qui a écrit un très beau texte sur Hébron. Il y a Marie Roussel qui est à SOS Méditerranée et à la FPS. Il y a moi-même. Il y a Janine Tesson qui est une des écrivaines régulières de Chèvrefeuille étoilée et qui maintenant a rejoint le groupe de la maison d'édition. Et nous serons accompagnés de Abdelali Afidi qui est un membre de la FPS et qui est guitariste, qui va nous chanter des chansons, et la chanteuse Linda Touati, qui chante en général à cappella. Donc tout ça, ce sera samedi 4 mai à 15h au Gazette Café.
Oui, dans le cadre va très bien avec ce genre de
d'évocation
et de manifestation.
Hein. Et nous serons également à la Comédie du Livre, notamment en signature sur le stand, mais aussi le dimanche à 16h30, je crois à l'ancienne fac de pharmacie, je crois.
D'accord. Donc, si j'ai cru comprendre, par contre, que le livre ne sera disponible que...
Le 17 juin. La sortie officielle ne sera que...
La sortie officielle.
Mais on peut se le procurer...
Voilà, c'est ça que...
Par souscription, auparavant, et dans ce cas-là, le prix ne sera que de 16,50 € alors qu'il est de 22 €.
D'accord, donc
officiellement à partir donc du 17 juin.
Et il faut aller donc sur le site de la maison d'édition pour se le procurer.
De Chèvrefeuille étoilée.
Voilà, ça s'appelle édition Femmes Chèvres, tout ça en attaché sans accent, -feuille.fr. Hein, c'est le site de la maison Chèvrefeuille étoilée. Donc remerciement encore à nos éditrices que tu as citées, Marie-Noëlle et Anouk, voilà, pour les appeler par leur prénom. Et puis courez vite ce 4 mai à 15h, courez vite au Gazette Café. Je pense que vous ne serez pas déçus. Et merci Monique d'avoir eu cette très belle initiative qui quand même fait chaud au cœur et appelle encore à cette solidarité et surtout à la paix. Et ça, c'est très important, c'est comme tu dis, paix.
Et bien, merci de m'avoir invité et de m'avoir donné l'occasion d'en parler.
Voilà, et puis juste une petite communication. Demain, donc à midi, il y a un café actualité sur les paysans sahéliens face à leur avenir. Donc avec René Billaz qui est un agronome, et c'est au 27 boulevard Louis Blanc, avec le tram, on peut prendre le tram soit à Récorum ou Louis Blanc, situé entre les deux, donc les paysans sahéliens face à leur avenir, et il y a du boulot aussi là aussi, mais pour la paix il y a beaucoup de travail. En tout cas, merci Monique, et puis plein de paix partout dans le monde, c'est tout ce qu'on peut souhaiter, et à la semaine prochaine, au revoir.
Bonne semaine à tous.